C'est le journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques vont rythmer nos nuits et nos matinées ces prochains jours. Première journée de compétition en ce moment. Décalage horaire avec le Japon oblige. Début des épreuves de judo à Tokyo notamment. Il s'agit d'aller vite, très vite. Après l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture, les sénateurs examinent et espèrent voter le projet de loi anti-Covid dès aujourd'hui. Nous en parlons dans ce journal. Et puis à suivre, la grande barrière de corail échappe à l'embarrassant statut de site en péril et le dernier soir des Eurockéennes de Belfort ce samedi.
France Inter.
Et sans plus tarder, nous prenons la direction de Tokyo. Les 11 premiers titres olympiques des Jeux sont décernés aujourd'hui. La chinoise Qian Yang remporte la toute première médaille d'or, c'était tout à l'heure, au tir à la carabine à 10 mètres, une de ces nombreuses disciplines qui font les Jeux olympiques. Un peu comme le judo, Stéphanie Mora, avec la première journée de combat, les moins de 48 kilos chez les filles et les 60 kilos chez les garçons. Bonne nouvelle, un Français est bien parti pour monter sur le podium à la journée.
Effectivement, Luca Meredze est en demi-finale, formidablement bien négocié hein, cette première partie de journée pour ce jeune espoir du judo français qui a fait médaille d'argent au dernier championnat d'Europe et qui se retrouve donc là effectivement potentiellement médaillable pour ses premiers Jeux Olympiques à 25 ans à peine. Il a battu lors de son premier combat l'Espagnol Garrigós. C'était un remake de cette finale de la Coupe d'Europe, du championnat d'Europe pardon, en avril. Et donc là il s'ouvre les portes potentiellement pour la suite. En demi-teinte en revanche, Shirin Boukli, chez les filles, on attendait beaucoup de la jeune gardoise. Elle a été sortie dès le premier combat par une Serbe moins bien classée mais qui l'a fait déjouer complètement. Elle a été éliminée après 3 pénalités. C'est une déception là pour Shirin Boukli qui était un vrai espoir de médaille chez les filles pour inaugurer donc ce tournoi olympique. Mais on va se consoler et croiser les doigts pour ce jeune garçon, Luca Meredze, qui est géorgien de naissance, qui est arrivé en France à l'âge de 13 ans, qui a pris la nationalité il y a quelques années à peine et qui donc pourrait créer la sensation de ce début de tournoi olympique au judo.
Voilà, peut-être une première médaille française. Merci Stéphanie Mora, vous nous tenez bien évidemment informés. Déception en revanche, en tennis, la paire de doubles Nicolas Mahut-Pierre Hugerbert est d'ores et déjà éliminée dès son entrée en lice contre les Britanniques Andy Murray et Joe Salisbury. Défaite en 2 manches. En revanche, pour les handballeurs, ça s'est plutôt bien passé pour leur premier match du tournoi. Victoire contre l'Argentine, 33-27. À suivre également le match de volley entre l'équipe de France et les États-Unis, à suivre à partir de 14h45.
Et les sénateurs n'auront pas le temps de regarder le match, ils poursuivent l'examen du projet de loi sanitaire.
Il faut aller vite, le texte prévoyant l'extension du pass sanitaire et la vaccination anti-Covid obligatoire pour les soignants a été adopté en 48 heures à l'Assemblée nationale. La Chambre haute devrait mettre moins de temps à voter en première lecture. Victoria Koussa, les discussions vont durer toute la journée avant un possible vote dès ce soir.
En majorité à droite, le Sénat ne compte pas bloquer mais assouplir le texte. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains.
Oui, au pass sanitaire, mais non à un pass arbitraire. Au fond du fond, pourquoi est-ce que nous allons vous accompagner sur cette décision difficile ? Parce que nous croyons qu'une société ne peut tenir debout que s'il y a là encore un autre équilibre entre les devoirs et les droits. Nos droits sont le reflet de nos devoirs.
Les débats s'annoncent calmes malgré certaines prises de parole virulentes. Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National.
Ce passe, ou plutôt cet Ausweis sanitaire que vous nous demandez de voter, est le parfait symbole du quinquennat. Et pendant que les islamistes conquièrent chaque jour de nouveaux territoires, le gouvernement reste impitoyable. Mais avec les honnêtes gens.
Sur les 300 amendements déposés en commission, l'un vise à supprimer l'isolement obligatoire des malades du Covid ou le pass pour les visites d'un proche à l'hôpital et à l'entrée des grands centres commerciaux, sans intérêt d'après le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Si ça flambe et qu'on ne peut pas utiliser le pass sanitaire dans les passes, attendez-vous à ce que nous soyons obligés de les fermer, ces grands centres.
Les débats vont se poursuivre jusqu'à au moins ce soir. Il faudra ensuite que les deux chambres tombent d'accord pour une adoption définitive du texte dans les 2 jours.
Victoria Koussa et puis les opposants au pass sanitaire continuent leur mobilisation. Dans le même temps, des manifestations attendues dans les grandes villes aujourd'hui, la semaine dernière. 110 000 personnes étaient sorties dans les rues. Jean-François Delfraissy estime qu'il est urgent d'adopter le nouveau projet de loi anti-Covid. Le président du conseil scientifique qui guide le gouvernement espère un retour à la normale au plus tôt en 2022, voire en 2023. Selon lui, la quatrième vague continue de monter. 21 000 nouveaux cas diagnostiqués hier. il pourrait y avoir jusqu'à 50 000 infections à coronavirus quotidiennes au début du mois d'août, selon Jean-François Delfrécy. Puis, lui devance le gouvernement et va beaucoup plus loin. C'est Christian Estrosi, le maire de Nice, impose le pass sanitaire au centre de loisirs. Il sera exigé dès mercredi prochain des enfants âgés parfois de seulement 3 ans. Reste à savoir si tout cela est légal, les préfets étant a priori les plus habilités à prendre ce type de décision.
Ça, en revanche, c'est certain, c'est illégal, une nouvelle affaire de fausses attestations vaccinales à Grenoble.
Une femme de 30 ans est depuis hier mise en examen pour réalisation, détention et fourniture de faux documents administratifs. Il s'agit d'une employée d'un centre de vaccination. Les précisions de Gaëlle Joly.
La jeune femme âgée de 30 ans, inconnue des services de police, a été interpellée mercredi à 16h30 au centre de vaccination Alpexpo à Grenoble. Prise en flagrant délit, les policiers avaient eu vent de dysfonctionnement. Ils sont donc venus vérifier. C'est elle qui validait les attestations des personnes tout juste vaccinées quand elles attendent de pouvoir partir. Sauf qu'elle en tamponnait aussi des fausses. De sources proches du dossier, la jeune femme se présente comme la directrice de campagne du mouvement Les Républicains à Grenoble. Selon les premières investigations sur son téléphone portable, l'escroc présumé prenait en échange de la carte vitale 250 euros par attestation lorsqu'il s'agissait de ses propres clients, 100 euros quand elle passait par un intermédiaire. La demande est telle qu'il est pour l'heure impossible pour la police de recenser tous les clients de cette femme. Les enquêteurs ont retrouvé chez elle la somme de 750 euros. En 48 heures de garde à vue, elle n'a pas dit un mot, faisant valoir son droit au silence.
Gaëlle Joly. La mère des deux fillettes retrouvées mortes mercredi dans le Finistère reconnaît être à l'origine des décès. Elle a 35 ans et est hospitalisée après avoir bu un produit caustique. Selon le parquet de Brest, les deux fillettes âgées de 4 et 6 ans sont mortes par noyade. La mère aurait voulu disparaître avec ses enfants après sa séparation avec son mari.
Encore un sursis pour la Grande Barrière de Corail. L'UNESCO ne l'a pas classée sur sa liste des sites en péril.
L'Australie a mené pour cela une intense campagne de lobbying. Ce déclassement n'est pas sans conséquences, notamment pour le tourisme. Mais plusieurs experts estiment que le plus grand écosystème du monde est bien en danger. Notamment Tim Badman de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il avait d'ailleurs été sollicité par l'UNESCO pour évaluer les conséquences du réchauffement climatique sur la Grande Barrière de Corail.
Je crois que même si le comité du patrimoine mondial a décidé de ne pas inscrire la Grande Barrière sur la liste en péril, en fait, ça ne change rien, en fait, que ce site est hautement menacé. Le comité de l'UNESCO s'est mis d'accord avec notre analyse technique, mais ils ne veulent pas mettre ce site sur la liste en péril. On a vu dans ces cinq dernières années, surtout plusieurs épisodes de blanchiment massif qui a porté sur le récif. L'Australie eux-mêmes ont changé le statut de l'écosystème de mauvaise à très mauvaise il y a 2 ans. Est-ce que c'est un site qui remplit les critères d'être mis sur la liste en péril? C'est clair. On comprend que c'est une décision difficile, mais comme c'est clair que les risques sont là, c'est le moment d'agir.
Tim Badman de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il répondait aux questions de Sandy Dauphin et l'UNESCO réévaluera la situation de la Grande Barrière de Corail en 2022. Et puis, ce samedi après-midi, on saura si Vichy dans l'Allier va être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 10 autres grandes villes d'eau d'Europe. Décision rendue entre midi et 15h.
Les Eurocéennes s'achèvent ce soir à Belfort.
Le festival rebaptisé en résidence secondaire cette année aura vécu une édition particulière, grandement conditionnée, vous vous en doutez, par la crise du coronavirus. 2 scènes et seules 1000 personnes par soir. Ça, c'était jusqu'à ce qu'on renforce les règles du pass sanitaire. Toutefois, Mathieu Culeron, les organisateurs des Eurocéennes voient le verre à moitié plein.
Même si l'heure des bilans n'a pas encore sonné, les grands festivals de l'été auront globalement souffert des incertitudes concernant le pass sanitaire. Les Eurocéennes sont un peu l'exception, ils avaient opté pour une jauge de 1000 personnes leur permettant au départ de ne pas mettre en place ce pass. Mais lorsque la jauge est abaissée à 50 personnes juste après le début du festival, Jean-Paul Roland, le patron, doit s'adapter coûte que coûte.
Donc en fait ce qu'on a fait, par honnêteté commerciale, respect avec les festivaliers, on a dit à tous ceux qui avaient acheté un billet, on leur envoyait un mail en disant « si vous voulez vous faire rembourser, vous pouvez vous faire rembourser ». Honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas vendu autant de billets si on avait vendu ça une fois que le pass sanitaire aurait été connu comme règle d'entrée.
Même casse-tête côté programmation, les artistes internationaux sont très peu présents sur le territoire. Kem, le programmateur, doit être réactif pour confirmer les artistes.
la tête ne marchait plus, il se passait plus rien. Et là, d'un seul coup, tout est reparti, on a retrouvé les habitudes. Et programmation, comme je disais, en 4 jours. Et même, il y a un artiste qu'on a booké par SMS en 2 heures, Skip the Use. C'est assez fou. Voilà, donc j'aime bien travailler dans l'urgence, mais là, c'était vraiment dans l'urgence.
Les Eurocaennes de Belfort qui se terminent ce soir avec une soirée DJ, avec la palestinienne Sama Abdouladi, la marocaine Glitter ou encore Piu Piu, Andy 4000 et Félix Chita.
Voilà, les Eurocaennes qui s'achèvent donc ce soir à Belfort. Un sujet préparé par Mathieu Culeron.
C'est le journal de Raphaël Delvolvé. Merci Raphaël. Les couleurs du ciel maintenant.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Pierre Hameau, une météo orageuse aujourd'hui.
Et oui Amélie, après une belle séquence de temps estival, les orages reprennent le relais. Nous allons retrouver ce matin une première zone orageuse entre l'Ain et la Bourgogne-Franche-Comté remontant vers le Grand Est, apportant localement de fortes averses, voire de la grêle. Et puis des rafales de vent, elles seront parfois proches de 100 km/h. Une seconde salve orageuse est en train de gagner le Finistère, apportant là aussi de forts cumuls de pluie et des rafales de vent. Et puis votre matinée sera plutôt calme dans les autres régions, avec quand même une bonne couverture nuageuse des Pyrénées au Massif central et d'assez belles éclaircies ailleurs. Cet après-midi, les averses orageuses resteront d'actualité entre le centre-est et le nord-est et le long des frontières du nord, mais aussi de la Bretagne au pays de la Loire. Ces orages vont gagner la région centre et la Normandie, puis la région parisienne en soirée. Puis dans les autres régions, prévoyez un ciel changeant et quelques averses par moment. Seule la région PACA et l'île de Beauté profiteront d'un excellent ensoleillement.
Et on va mieux respirer, les températures baissent, hein, Jean-Pierre.
Oui, avec des valeurs maximales évoluant généralement entre 22 et 26 degrés. En revanche, la chaleur fera de la résistance près des frontières de l'Est et autour de la Méditerranée. Prévoyez encore 30 degrés à Lyon, 32 à Grenoble et Perpignan, 34 du côté de Marseille. Puis on ira jusqu'à 35 degrés à Ajaccio.
Jean-Pierre Hameau, merci.